La science CQFD, Natacha Triou.
On poursuit notre semaine spéciale, on va s'installer sur la Lune. Les États-Unis, la Chine et la Russie veulent construire des bases durables sur le sol lunaire. De quelle technologie avons-nous besoin pour concrétiser ce projet ? Le programme Artemis projette de construire un village au pôle sud de la Lune, dans un environnement hostile, sans atmosphère, ni champ magnétique, aux écarts de températures extrêmes et à la gravité 6 fois plus faible que sur Terre. Sur place, pas de briques, ni de béton, mais l'industrie spatiale travaille déjà à inventer une nouvelle architecture et de nouvelles matières premières de construction. La pendaison crémaillère n'est pas pour tout de suite, mais techniquement, comment emménager sur la Lune ? Lune, un futur pied à terre. Pierre-Henri Quay, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes médiateur scientifique chargé de projets, conférencier indépendant, passionné d'espace et plus connu sous le pseudo AstroPierre sur X, anciennement Twitter. Et nous sommes également en duplex de France Bleu Occitanie avec Grégory Navarro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur au CNES, responsable au sein de Spaceship France à Toulouse du développement des habitats spatiaux et des systèmes de support vie. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, bien sûr, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr, mais aussi sur YouTube, mais aussi sur Twitter, sur X, sur notre fil @CQFD avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors quel défi un tel projet représente-t-il ? Comment construire ces infrastructures? Quelles sont les technologies envisagées pour une habitabilité longue durée sur la Lune? Et à quoi pourraient ressembler les premiers villages extraterrestres? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, à quelles conditions devrions-nous nous frotter une fois sur place? La question est posée en 1959, c'est notre archive du jour.
À quelques années, à quelques mois peut-être des voyages interplanétaires, je voudrais vous demander, Monsieur Pecker, quel sera l'équipement des premiers humains qui se poseront sur la Lune? Et quel spectacle merveilleux s'offrira à leur vue.
Je ne suis pas prophète, mais enfin on peut imaginer quelque chose qui ressemblerait à ce que je vais vous dire. On peut imaginer des hommes vêtus de scaphandres, incompressibles naturellement, assurant une pression suffisante au maintien de l'équilibre des liquides organiques malgré l'absence d'atmosphère, portant des semelles de plomb pour compenser la faible pesanteur. Et ces premiers astronautes verront sur la Lune, face visible ou invisible, une poussière fine et blanchâtre, à perte de vue, un relief extrêmement aigu dû à l'absence d'érosion. Vous savez qu'il n'y a ni pluie, ni vent, ni mer sur la Lune. Un ciel noir, un soleil brillant avec sa couronne enfin visible à l'astronome ébloui. Des mouvements lents du ciel en 14 jours terrestres, du lever au coucher du soleil. Pas d'air, le silence, puisque c'est l'air qui sur la Terre conduit les sons. La grosse Terre dans le ciel, entourée d'un nimbe bleuté. Ils pourront enfin construire des observatoires fabuleux où l'on observera des images qui ne seront plus troublées par les mouvements de l'air.
Eh bien, merci, Monsieur Pecker. Notre imagination est maintenant satisfaite. En attendant le jour prochain où des caméras de télévision nous transmettront fidèlement ce grandiose décor du sol lunaire.
Oh, merci Monsieur Pecker. On entendait la voix de l'astrophysicien sur la RDF en 1959. Pierre-Henri Quay, comment résonne cette archive pour vous aujourd'hui en 2024 ?
Eh ben étonnamment moderne. Effectivement, il y a quasiment tout. Il y a pas beaucoup de choses qui ont changé. La chose qui est la plus fascinante pour moi sur la Lune, c'est effectivement que la Lune montre toujours la même face à la Terre. C'est-à-dire que nous sur Terre, on tourne en 24 heures, donc on voit la Lune se lever, se coucher. Mais quand on est sur la Lune et qu'on est sur la face visible, eh bien, on fait toujours face à la Terre. Ça veut dire que la Terre, dans le ciel lunaire, eh bien, elle est immobile, elle ne bouge pas, elle est toujours au-dessus de vous, au même endroit. Vous la voyez tourner sur elle-même, mais vous, eh bien, vous pouvez l'observer en permanence. Et ça, c'est magnifique. Et j'espère, évidemment, qu'on aura, dans les années qui viennent, cette image comme ça de la Terre qui surplombe les futures bases lunaires.
Et dans les années qui viennent, en effet, on aura probablement de belles images d'alunissage. Grégory Navarro, vous aussi, pour entendre votre réaction à cette archive.
Oui, mais je partage le même avis que ExploPierre. En effet, c'est alors ce qui me frappe, c'est le focus qui est fait plutôt sur les fameux 14 jours au soleil. Donc la Lune elle tourne donc sur elle-même à peu près 28 jours. Et c'est vrai que quand on est à l'équateur, on va avoir, on va dire une journée lunaire qui va durer 14 jours terrestres, donc de plein soleil et donc 14 jours d'obscurité. Alors c'est plutôt sur donc cette phase toujours visible qu'ont eu lieu les missions Apollo. Nous, dans un futur proche, on vise plutôt le pôle sud de la Lune pour plusieurs raisons, et en particulier celle de l'éclairement. On va réduire en fait la durée d'obscurité entre 3 et 5 jours grâce à cette position-là. Et donc c'est très précieux pour pouvoir alimenter nos panneaux solaires et donc produire de l'énergie.
On a vu dans l'épisode d'hier, l'épisode numéro 2 sur la géopolitique, que en effet Artemis, les États-Unis et les pays associés visaient le pôle sud, mais aussi la Russie et la Chine pour installer des bases lunaires. Pour Artemis, très rapidement, Pierre Henriquet, Astropierre, est-ce que je peux vous demander, voilà, de rappeler assez brièvement quand même le calendrier Artemis sur justement ses premiers pas et ses premières briques d'une première installation d'une base lunaire?
Alors évidemment, tout se fait toujours pas à pas, petit à petit. On peut pas arriver directement avec un village lunaire demain. Le premier pas, il a déjà été fait, 2022, Artemis 1, où cette fois-ci, on a testé les systèmes. C'est-à-dire qu'on a envoyé le nouveau vaisseau lunaire Orion, qui a été construit à moitié par la NASA et à moitié par l'Agence spatiale européenne, et on l'a envoyé faire le tour de la Lune et revenir sur Terre pour vérifier globalement que tout fonctionnait. Donc, évidemment, tout fonctionne jamais parfaitement, donc on est en train de corriger un certain nombre de choses, et va venir Artemis 2. Artemis 2, bah, c'est pareil qu'Artemis 1, sauf qu'on met des gens dedans. Donc on va retourner autour de la Lune, pas dessus, autour, et on va vérifier cette fois-ci que l'équipage peut contrôler le vaisseau, communiquer avec la Terre, etc. Donc on rajoute un niveau de difficulté. Ensuite, donc ça c'est Artemis 2, fin 2026, on a pris un an de retard, donc 2025, maintenant 2026. Et ensuite, bah alors les dates sont de moins en moins précises, mais après Artemis 3, normalement, là Artemis 3 c'est la première fois où on pose le pied sur la Lune. On se servira peut-être pas d'ailleurs de la station spatiale lunaire Gateway, on aura peut-être juste un docking entre le vaisseau spatial Orion et puis l'atterrisseur, peut-être le Starship. Et on essaye de se poser sur la Lune. On valide une nouvelle fois cette étape, on est capable de descendre, de se poser, de remonter, de repartir. Et ensuite vient Artemis 4, Artemis 5, Artemis 6. Et c'est toutes ces missions suivantes, eh bien, elles viseront d'abord à construire de plus en plus la fameuse station spatiale lunaire, donc amener des modules à chaque nouvelle mission Artemis, mais en plus à faire des séjours de plus en plus fréquents et de plus en plus longs à la surface de la Lune, poser différents instruments scientifiques et commencer à voir quel est cet environnement au pôle en vue plus tard, eh bien, une fois qu'on le connaîtra bien, de dimensionner tous les éléments qui nous permettront de construire cette base polaire.
C'est ça, hein, Grégory Navarro, c'est que la Lunar Gateway, la base en orbite, qui va succéder d'ailleurs à l'ISS, hein, puisqu'elle arrive en fin de vie, ça va servir de plateforme de transfert pour justement la base lunaire sur le sol lunaire.
Oui, c'est tout à fait ça. Et en effet, ça a été bien résumé toutes ces étapes. Donc l'idée, c'est vraiment ça, d'avancer pas à pas, utiliser cette station donc pour pouvoir faire les allers-retours sol lunaire, orbite lunaire, et ensuite une fois que les astronautes sont de nouveau dans la Lunar Gateway, faire le transfert donc Lune-Terre, donc tous ces allers-retours donc Terre-Lune, donc en passant par la Lunar Gateway, le but c'est en effet d'arriver à cette base permanente, et l'installation de tous ces moyens, donc ça va commencer par des moyens de production d'énergie, ensuite peut-être une base, une première base, on va dire, de taille réduite, jusqu'à arriver à une base permanente. Des véhicules aussi non pressurisés, des véhicules pressurisés qui permettront d'agrandir le périmètre d'exploration. Toutes ces briques, en fait, qui vont être installées, vont pouvoir être finalement qualifiées. Donc c'est le terme qu'on utilise dans le domaine spatial, c'est-à-dire qu'elles sont testées en conditions réelles pour ensuite être transférées donc vers Mars. Et donc finalement, fondamentalement, la Lune, c'est l'utilisation de la Lune, c'est vraiment qualifier ces technologies pour qu'elles soient ensuite transférées vers Mars. On prépare vraiment le voyage vers Mars.
La Lune, l'avant-poste de Mars. Pierre Henriquet, vous souhaitiez réagir?
Oui, cette fameuse station spatiale Gateway, hein, c'est pas un projet de science-fiction dans l'avenir lointain. Les modules sont déjà construits, ils sont en attente d'être envoyés, donc c'est vraiment quelque chose qui est présent. Et c'est déjà la première base lunaire, la première base internationale. Vous l'avez dit tout à l'heure. Normalement, au début, on doit devrait avoir juste deux premiers modules qui vont être montés là-haut. Donc le PPE qui va servir à la puissance électrique et puis le module Halo. Donc ces deux modules sont américains, sont construits par la NASA. Mais ensuite, eh bien, seront rajoutés progressivement des modules qui sont construits et amenés par différentes nations. Donc on est vraiment sur une station spatiale internationale. L'Europe, elle va amener un module d'habitation et un module qui permettra d'observer la surface de la Lune. Ensuite, on a un module qui va servir justement à aller dans l'espace quand on va faire des sorties spatiales. Donc initialement, c'est la Russie qui devait l'amener. Et puis ce module, le Crew and Science Airlock, depuis que la Russie s'est désengagée du programme, bah, c'est les Émirats Arabes Unis. Le Canada va amener un bras robotisé. Donc c'est vraiment une station spatiale, une base internationale qui commence à se construire.
Et on va voir hein, qu'une station spatiale et une station au sol, ça ne se construit pas de la même façon. Pierre-Henriquet, sur le sol, il y a quand même un certain nombre de risques sur place.
Oui, oui, oui. Un certain nombre, c'est un euphémisme. Il y a des quantités de risques. Enfin, tout veut votre mort sur la Lune. C'est pire que l'Australie. Effectivement, qu'est-ce qu'on a comme risque? Alors, le premier, c'est la température. Quand on est à l'équateur sur la Lune, tout à l'heure, on le disait, une journée, le jour dure deux semaines terrestres, la nuit dure deux semaines terrestres. Donc, la journée, il fait hyper chaud. À l'équateur, il fait 120 degrés le jour. Et la nuit, il fait moins 130. Ça, c'est à l'équateur. Mais nous, on va au pôle. Alors, au pôle, le jour, il fait 0 degré à peu près. Donc ça, c'est relativement bon. Et puis par contre, au fin fond des cratères polaires, là où la lumière du soleil n'atteint jamais le fond, eh bien la température a été mesurée depuis l'orbite à moins 250 degrés. C'est-à-dire à peine 20 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est une température extrêmement froide. Et c'est pour ça aussi qu'on y va. C'est parce qu'à cet endroit-là, eh bien il peut encore y avoir de la glace d'eau, ce qui va être important. Donc ces températures constituent déjà un élément majeur de risque.
On a ces températures, on a les chutes de météorites, on a les tremblements de terre de Lune également.
Exactement, ça c'est une news qui est tombée il n'y a pas très longtemps en fait. On s'est aperçu qu'au pôle sud lunaire, donc on a utilisé la sonde LRO, c'est un satellite qui cartographie la Lune, et en étudiant un peu mieux ces photos, eh ben, on s'est aperçu qu'au pôle sud lunaire, certains sites qui ont déjà été proposés pour de futurs atterrissages des missions Artemis, eh bien, ils sont en réalité à l'intérieur de certaines zones de faille qui sont vulnérables à des tremblements de terre, voilà. Et d'ailleurs, ces tremblements de terre ont déjà été mesurés, puisque dans les années 70, les sismomètres des missions Apollo, eh bien, ont mesuré un tremblement de terre qui était dû à la formation d'une faille au pôle sud de la Lune. Alors, pourquoi est-ce que ça bouge? Parce que la Lune, elle a plus d'activité géologique. C'est parce que justement, la Lune, eh ben, c'est un petit corps qui se refroidit. Et donc, comme elle se refroidit, elle se rétrécit. Et quand elle se rétrécit, ben, il y a des contraintes sur la croûte, et dans le temps, ça casse. Et donc, il y a plein de failles au niveau du pôle sud lunaire, et il faudra certainement aussi bien prendre en compte ça pour soit des tremblements de terre, soit des glissements de terrain. Ça risque d'être un peu dangereux.
Ça risque d'être un peu rock'n'roll, en effet. Et je vous invite d'ailleurs à écouter le premier épisode de cette série qui était consacré à la géologie et la structure interne de la Lune. Grégory Navarro, parmi tous ces risques, il y en a aussi un autre qui ne saute pas forcément comme ça aux yeux, c'est le régolithe lunaire, hein, la poussière lunaire. Ça constitue aussi un défi majeur, car comme elle n'est pas érodée, cette poussière, par l'eau ou le vent, elle est abrasive, presque comme du verre.
Oui, c'est exactement ça. On peut l'assimiler presque à de la poudre de verre. Donc dans sa granulométrie, on a de la poudre qui est aussi fine que du talc. Et donc, potentiellement, peut-être respirer. Et donc, en effet, on pourrait avoir un danger pour les poumons de nos futurs astronautes. C'est aussi une poussière qui va s'insinuer partout. Et donc, elle a, en plus d'être abrasive, la propriété d'être chargée électriquement. Cet effet électrostatique va faire qu'elle va se coller sur les parois, rentrer dans les pièces mobiles, voire pouvoir atteindre des cartes électroniques. Donc ça représente en fait un challenge aussi, parce qu'il va falloir se protéger contre cette poussière, donc pour la santé de nos astronautes, mais aussi pour le bon fonctionnement du matériel qui sera installé à la surface de la Lune.
Pierre-Henriquet ?
Oui, un autre problème, c'est l'irradiation, ce qu'on appelle les rayonnements cosmiques. Les rayons cosmiques, c'est un flux, une pluie permanente de particules. Alors nous, sur Terre, on en est épargné parce qu'on a deux boucliers. Le premier, c'est le champ magnétique terrestre qui va dévier une grosse partie de ce flux de particules qui viennent pour une grosse partie du Soleil, mais aussi de la galaxie, des trous noirs, des supernovas qui sont en train d'exploser. Tout nous jette des particules sur la Terre. Donc le bouclier magnétique de la Terre dévie une bonne partie de ces particules. Et celles qui passent, eh bien, elles sont absorbées par un autre bouclier beaucoup plus matériel, qui est l'atmosphère terrestre. La Lune, elle n'a ni atmosphère, ni champ magnétique. Donc, effectivement, on a un vrai problème au niveau de l'irradiation, la dose que l'on reçoit à la surface de la Lune. C'est pour ça qu'il va falloir trouver dans ces bases à se protéger de cette irradiation. Il n'y a pas très longtemps, les Chinois qui ont atterri donc sur l'autre face de la Lune, sur la face cachée, avec leur mission Chang'e 4, eh bien, ils avaient mesuré la quantité de dose qui était déposée dans la matière par ces irradiations permanentes. Alors, peu importe l'unité, mais ils avaient mesuré une dose de 15 microgrès par heure. Juste pour donner une équivalence, à Tokyo, au même moment, la dose naturelle, la radioactivité naturelle autour de nous, elle est de 0,03 microgrammes par heure, c'est-à-dire que sur la Lune, on a une dose naturelle 500 fois plus grande que sur Terre, et ça, il va vraiment falloir aussi le prendre en compte.
Une base sur le sol lunaire ou sous le sol lunaire, les premières tentatives réelles de construction d'une base ne sont pas pour tout de suite, mais admettons, par quoi commencerait-on? Quelles seraient les premières briques d'une base lunaire? Restez avec nous, on poursuit notre voyage à 380 400 km de la Terre.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Pierre Henriquet et Grégory Navarro, nous parlons des projets de construction de bases lunaires. C'est notre troisième épisode de notre semaine spéciale. On va s'installer sur la Lune. On vient de décrire un environnement plutôt hostile pour les astronautes. Grégory Navarro, avant même de commencer à construire quoi que ce soit, de toute façon, avant l'établissement d'une quelconque base lunaire au sol, il va y avoir de nombreuses prospections sur place, des estimations de surface, car c'est un environnement qu'on connaît finalement pas très bien.
Oui, tout à fait. C'est en effet les premières missions de surface vont nous permettre de déterminer un peu mieux le relief, la constitution du terrain. Ce qu'on ne sait pas bien, par exemple, c'est l'épaisseur de poudre lunaire, donc qui n'est pas forcément homogène sur la surface de la Lune. Et finalement, les premières activités, ça va être beaucoup de science, justement, pour mieux caractériser cet environnement lunaire, mieux le cartographier. Et donc, une fois qu'on le connaîtra, bien, ça sera plus facile de le parcourir et surtout en toute sécurité.
Oui, Pierre-Henriquet, c'est plutôt difficile d'avoir des estimations précises sur un certain nombre d'informations sans être sur place, comme par exemple sur les ressources en eau.
Par exemple, effectivement, c'est pour ça qu'il y a une différence entre le premier homme et la première femme sur la Lune, et puis la première base lunaire qui va prendre beaucoup plus de temps. L'eau, c'est évidemment un élément vital, et c'est l'une des raisons principales pour laquelle on va au pôle sud, puisque comme on le disait tout à l'heure, au fond des cratères du pôle sud lunaire, des cratères qui ne voient jamais le soleil, puisque là-bas, la lumière arrive rasante par rapport à la surface, la température est extrêmement basse, et on le sait maintenant, eh bien, il y a eu plein de mesures depuis l'orbite, il y a des quantités disons non négligeable d'eau sous forme de glace au fond de ces cratères. Et donc cette eau, elle est importante pour plein de raisons. D'abord, on va l'utiliser en tant qu'eau pour les humains qui vont vivre dans ces bases, pour les plantes qu'il va falloir faire pousser. À partir de l'eau H2O, on peut extraire de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc ça peut servir aussi de carburant pour les moteurs de fusée. La fusée Ariane 5, elle fonctionnait, le moteur central fonctionne à l'oxygène et à l'hydrogène. Ça permet d'extraire aussi de l'hydrogène pour nous. Donc cette eau, elle est vraiment vitale. Par contre, la question, c'est quelle quantité est-ce qu'il y a? Comment est-ce qu'on va faire pour descendre dans un cratère où la température descend à moins de 150 degrés? C'est loin d'être évident. Et puis ensuite, quelle est la qualité de cette eau? Est-ce que c'est de la glace qui est quasiment pure? Ou est-ce que c'est une espèce de bouillasse infâme qu'il va falloir filtrer? Donc toutes ces questions-là, on ne peut pas les avoir depuis l'orbite et il va bien falloir y aller pour savoir comment on pourra utiliser cette eau.
Ça veut dire que les premières missions habitées dans le cadre d'Artemis, ça va ressembler un peu plus à des missions d'exploration lunaire, comme celles qu'on a vues au moment des missions Apollo?
C'est ça. Dans un premier temps, on va explorer l'environnement. Et puis, une fois que cet environnement, on le connaîtra, une fois qu'on connaîtra les contraintes, là, on pourra définir vraiment comment est-ce qu'on va habiter de manière plus permanente à cette surface.
Grégory Navarro, la première brique, vraisemblablement, ça devrait être des atterrisseurs lunaires modulaires, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Et le but, c'est d'abord d'amener de quoi produire de l'énergie, donc de l'énergie électrique. Ça, c'est vraiment la clé principale. C'est d'ailleurs par rapport aux différentes activités que l'on mène, le premier step que nous aussi on peut proposer. Donc nous on se focalise tout d'abord sur l'atterrisseur qui est en cours de développement au sein de l'Agence spatiale européenne, donc Argonaut. Et donc ce qu'on propose justement, c'est sur cet atterrisseur de mettre une station service d'énergie, donc pour les différents équipements qui pourront ensuite être déployés et donc en bénéficier. On peut penser essentiellement de prime abord à des rovers, donc à des robots roulants qui permettront donc d'installer de l'équipement, récupérer des échantillons, explorer aussi et assister les astronautes à la surface de la Lune.
Oui, parce que une des choses aussi fondamentales, Grégory Navarro, c'est lorsqu'on sera à peu près sûr du lieu d'implantation d'une base, par exemple, on va d'abord commencer par une installation entièrement robotisée.
En effet, c'est le. Alors, en fait, on va avoir de la robotisation. On parle aussi d'autonomie des systèmes. C'est-à-dire que, contrairement en fait aux opérations qui sont menées actuellement dans la Station spatiale internationale, où on a un équipage qui habite en permanence finalement la station. Là, on va avoir des équipements qui, donc en particulier la Lunar Gateway par exemple, où une fois qu'on aura notre habitation à la surface de la Lune, ce sont des éléments qui vont pas être habités en permanence. Donc ça veut dire qu'on change finalement de concept opérationnel. Actuellement, donc s'il y a un problème en fait dans la station, les astronautes peuvent intervenir n'importe quand. Là, on va avoir donc des systèmes qui vont pas bénéficier d'une intervention humaine 24 heures sur 24. Donc, il va falloir avoir une autonomie sur ces systèmes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de robotisation, on va dire. Et donc outre cette autonomie donc des systèmes, en effet, au sol, on va avoir toute une série d'éléments robotisés autonomes qui vont pouvoir avancer en fait dans les activités scientifiques et d'exploration et d'installation du matériel.
Pierre Henriquet.
Oui, effectivement, l'objectif c'est de faire descendre des humains quand la maison est construite et quand elle est habitable. C'est un peu comme quand on achète une maison, on ne l'achète pas alors qu'on ne l'a pas construite. Et effectivement, il va falloir le faire. Donc après, il y a plein de plans différents. Les agences spatiales de différents pays, différents continents travaillent dessus. On peut envisager, par exemple, une base qui commence avec un module gonflable. Donc là, on n'a besoin de personne pour ça. Le module commence à gonfler. Sauf que, une fois qu'il est gonflé, c'est quelque chose qui est quand même relativement fragile. Il y a des micrométéorites qui tombent dessus, etc. Il ne faut pas que ça perce. Donc il va falloir le protéger. Et on peut envisager, ça a déjà été fait, des robots, par exemple, qui viendraient récupérer ce fameux régolithe, le mélanger avec de la colle pour en faire une sorte de béton qui va être projeté à la surface de ces modules et en faire justement un mur de plus en plus épais, donc des sortes d'imprimantes 3D sur roues qui utilisent les ressources sur place. Ça, c'est très important. On va essayer au maximum d'utiliser toutes les ressources qu'on peut trouver sur place pour amener le moins de choses possible. Et à ce moment-là, faire un mur qui va entourer ces petites bulles de environ 1 mètre de régolithe, par exemple 1 mètre de béton, là vous arrêtez les rayonnements, vous arrêtez les micrométéorites et une fois que tout ça est installé, il n'y a plus qu'à descendre, ouvrir la porte et puis faire la pendaison de crémaillère.
Fabriquer des bâtiments en poussière de lune, moi ça me fait rêver. Grégory Navarro, justement chez Spaceship, vous avez défini des projets pilotes, dont deux en particulier, un habitat lunaire déployable et un petit rover assistant, on y reviendra. Pour ces projets pilotes, on est sur des horizons 2030, vous vous calez sur le calendrier d'Artemis, en l'occurrence Artemis 4. Pour l'habitat déployable, de quoi s'agit-il plus précisément?
Alors là, on est dans un concept qui est plus proche en fait du refuge de montagne ou du poste avancé. L'objectif principal, c'est vraiment d'étendre le périmètre d'exploration de nos astronautes. Il faut imaginer que l'on parle d'un atterrisseur donc habité ou d'une base permanente. En réalité, vous avez finalement un seul endroit à la surface de la Lune qui est sécurisé pour pouvoir accueillir ces astronautes. Et donc pour ensuite explorer la surface de la Lune, il y a des contraintes de sécurité qui sont liées vraiment à la distance entre l'astronaute et cet habitat sécurisé. Donc quand on est à pied, dans les documents de NASA, ce qui est écrit, c'est qu'on ne peut pas s'éloigner de plus de 2 km de cet habitat. Lorsqu'on est dans un rover non pressurisé, une Jeep lunaire, si vous préférez, c'est 10 km. Et dans un rover non pressurisé, c'est 11 à 12 km. Ça signifie que finalement, lorsque une fois qu'on a, on s'est posé ou une fois qu'on a cet habitat permanent, finalement, on est un petit peu prisonnier de ce de cette surface, de ce périmètre, de ce diamètre maximum finalement d'exploration. Et donc nous, ce qu'on propose en fait, c'est un complément finalement à ce qui est prévu dans le programme Artemis, donc qui s'appelle LIS, donc pour Lunar Integrated Shelter for Exploration, qui est un habitat déployable. Donc qu'on prévoit de mettre sur Argonaut. Donc Argonaut, il faut voir, hein, c'est maximum 2 tonnes d'emport pour un atterrissage donc à la surface de la Lune. Donc c'est un petit habitat donc qui va arriver évidemment vide, compacté, qui va se déployer donc à la surface de la Lune et se mettre en attente des astronautes. Et l'idée, c'est de le placer judicieusement à la surface de la Lune, donc d'en avoir plusieurs pour augmenter ce périmètre d'exploration.
Et vous travaillez donc aussi sur ce petit rover assistant. L'idée, c'est qu'il puisse transporter du matériel un peu comme une mule, pour rester dans le champ lexical de la montagne.
C'est exactement ça. donc, qui s'appelle LORA, donc pour Lunar Operational Rover Assistant. On aime bien les acronymes dans le domaine du spatial. Et donc, ce rover, en effet, c'est l'idée, c'est vraiment d'avoir la mule de l'explorateur spatial, comme on a le refuge de montagne, finalement, ou le poste avancé. Et donc, d'assister l'astronaute donc lors de ses opérations. Donc extravéhiculaire, donc à la surface de la Lune. En effet, transporter du matériel, avoir un rover qui va permettre aussi de faire des tâches donc qui vont aider l'astronaute, je sais pas, percer, ramasser des échantillons par exemple, et le précéder aussi dans des zones qui sont potentiellement dangereuses avant que l'astronaute puisse y aller en toute sécurité.
Pierre-Henriquet.
Et pour que justement ce rover puisse aller plus vite, plus loin, avec plus de sécurité, eh bien on peut aussi envisager de construire des routes. Alors des routes, il n'y a pas beaucoup de bitume sur la Lune. Par contre, il y a des travaux à l'Agence spatiale européenne justement qui envisagent, alors c'est très malin en fait, et c'est assez logique quand on y réfléchit, la ressource qu'on a en grande quantité là-bas, c'est justement cette poussière lunaire, ce régolithe. Eh bien, si jamais on concentre beaucoup d'énergie, un laser ou de la lumière solaire sur ce régolithe, on va le chauffer, on va le fondre et on va en faire des petits blocs. Et donc il y a ce travail très intéressant, c'est un projet qui s'appelle Paver. Alors, je ne sais pas si je le dis correctement. L'objectif, c'est de faire fondre le régolithe avec des lasers, mais on envisage aussi de concentrer la lumière solaire, comme ça on n'aurait même pas besoin de source électrique pour l'alimenter. Et donc de faire fondre ce régolithe, en faire des petites structures triangulaires qui puissent être assemblées pour former justement des routes et permettre à ces rovers d'aller plus loin. Donc ça, c'est tout à fait envisageable.
Voilà, des habitats, engins, routes. Vous l'évoquez, Pierre-Henriquet, question énergie, branchons le courant, il y a deux sources d'énergie envisagées principales, c'est le solaire et le nucléaire également. On pense à des petits réacteurs nucléaires pour alimenter les bases.
C'est ça, un peu comme les problématiques qu'on a ici sur Terre, on n'envisage pas une source plutôt qu'une autre, la solution viendra certainement de l'utilisation de plusieurs sources simultanément. Donc là, on a ces fameux panneaux solaires qu'on peut utiliser. L'avantage quand on est effectivement au pôle sud, c'est que le soleil nous tourne autour à l'horizontale, donc on peut l'avoir à peu près tout le temps, c'est plutôt pas mal. L'autre avantage aussi pour ces panneaux solaires, c'est que là encore, des panneaux solaires, c'est fait en tout cas avec les technologies actuelles à base de silicium. Or, sur la Lune, eh bien, le matériau principal, c'est des silicates, dans lesquels il y a beaucoup de silicium. Donc on pourrait peut-être même directement extraire ce silicium sur place pour fabriquer ces panneaux solaires directement incrustés dans la surface. En tout cas, on peut rêver à ça. Et puis l'autre idée, c'est des mini-centrales nucléaires. Alors cette idée d'utiliser le nucléaire a déjà été pensée pendant les missions Apollo. Alors c'était pas vraiment des centrales nucléaires, c'était des RTG. Donc en fait, on mettait des petits palets de plutonium qui étaient radioactifs et on utilisait simplement la chaleur de ces matériaux radioactifs pour la transformer en électricité. Donc c'est un petit peu dévié, mais là on envisage aussi des mini-centrales nucléaires qui pourraient alimenter des bases un petit peu plus grandes et combiner les deux. Donc là, en 2022, la NASA a sélectionné 3 entreprises, dont Lockheed Martin, pour travailler justement sur des petites centrales nucléaires qui pourraient fournir 40 kW d'électricité. Il y a la Russie et la Chine qui se sont aussi positionnées là-dessus, vous en parliez dans les émissions précédentes. Donc voilà, ce sont globalement les deux sources d'énergie qu'on envisage le plus aujourd'hui.
Grégory Navarro.
Oui, sur l'énergie. Alors c'est vrai que les RTG c'est déjà utilisé. On va retrouver ce type de technologie pour des rovers martiens. Mais ça développe pas en effet beaucoup de watts. On est de l'ordre de la centaine de watts. Pour une base, il faut commencer à compter 1 kilowatt. Donc ça signifie que il faut arriver à développer donc des moyens non seulement de production d'électricité, mais aussi de stockage. Donc ça a été évoqué. Donc les panneaux panneaux solaires ou la partie nucléaire pour la production. Alors nous, c'est vrai qu'on travaille plus sur la partie stockage de notre côté, en particulier sur les piles à combustible. Alors c'est déjà une technologie qui est assez ancienne. C'était déjà utilisé lors des missions Apollo sur le principe. Hein, vous avez de l'hydrogène, de l'oxygène. Lorsque les deux se combinent, en fait, ça donne de l'eau et de l'énergie qu'on va pouvoir utiliser sous forme d'électricité. Alors nous, on travaille sur des piles à combustible de nouvelle génération, donc avec des matériaux différents de ceux qui ont déjà été utilisés jusqu'à présent. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est, enfin, on pousse à ce qu'elles soient régénératives, c'est-à-dire que une fois que vous avez utilisé votre oxygène, votre hydrogène pour faire de l'eau, l'idée c'est aussi de réinverser le processus et donc à partir de cette eau refaire de l'hydrogène, de l'oxygène. Donc vous avez vos panneaux solaires, donc quand il fait jour, à partir de l'eau, on va recharger finalement les réservoirs d'oxygène et d'hydrogène. Et lorsqu'il va faire nuit, on va pouvoir utiliser cet hydrogène, cet oxygène pour produire de l'électricité pour nos équipements.
Et voilà pour le mix énergétique lunaire. Alors comment faire respirer, boire et manger un astronaute? Comment les humains vivront-ils sur la Lune? Restez à l'écoute, on répond à ces questions dans quelques instants. Laser, Moondust en direct sur France Culture, car nous parlons de poussière lunaire, du régolithe pour les futurs villages sur la Lune. On en parle avec nos deux invités du jour, Pierre Henriquet, alias Astropierre, médiateur scientifique, chargé de projet et conférencier indépendant, et Grégory Navarro, ingénieur au CNES, responsable au sein de Spaceship France du développement des habitats spatiaux et des systèmes de support de vie. Nous sommes au troisième épisode de notre série spéciale, on va s'installer sur la Lune. On l'a vu hein, cette dernière demi-heure, électricité, véhicules, habitat. On a bien compris que l'industrie spatiale est déjà à pied d'œuvre pour développer les technologies nécessaires. Des prototypes de bases lunaires adaptés théoriquement à l'écosystème lunaire sont déjà en cours de développement pour répondre aux besoins des futures missions habitées. On en parle avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha.
Pour le reportage du jour, vous avez visité l'exposition Mission Spatiale de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris pour découvrir le design et le mode de fonctionnement d'une base lunaire.
Et oui, avec son commissaire Mark Reed pour visiter la partie séjournée de cette exposition. Dans un décor immersif, on sillonne le pôle sud pour découvrir différents modèles de bases lunaires. Dans un autre compartiment, on explore cette fois l'intérieur pour comprendre comment assurer les besoins vitaux et la maintenance, culture de végétaux pour l'alimentation, recyclage des déchets pour produire de l'énergie et fabrication d'équipements par impression 3D.
On a plusieurs maquettes des concepts de future habitation lunaire et martien. Ils ont été développés par des agences d'architecture, telles que Foster Partners ou Skidmore, Owings & Merrill. Et en fait, eux, ils ont répondu à l'auto des concours lancés par les grandes agences spatiales, de la NASA, de l'ESA, qui ont demandé à quoi peut ressembler un habitat sur la Lune ou sur Mars dans un futur lointain.
Alors pour séjourner sur la Lune, il faut identifier un endroit d'intérêt où on peut capter de l'énergie, un endroit où il y a des ressources. Mmh. Et le pôle sud a été sélectionné, identifié comme le meilleur endroit pour instaurer des bases lunaires.
Absolument. Si on veut retourner sur la Lune et surtout y rester, il va falloir aussi apprendre à utiliser les ressources qu'on trouve sur la Lune. Et bien qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas grand-chose au niveau de ressources sur la Lune, en fait, il y en a pas mal. Il y a d'abord l'énergie solaire, donc on peut s'en servir de l'énergie du soleil pour produire de l'énergie avec des panneaux solaires, comme sur Terre.
Parce qu'au pôle sud, il y a une lumière solaire éternelle, ou quasi éternelle.
On parle des pics de lumière éternelle, exactement. C'est une région assez montagneuse. Ça se trouve qu'on a de lumière de soleil 80 à 95% du temps. Ça nous permet de produire de l'énergie un maximum de temps et minimiser le besoin de stocker l'énergie entre-temps.
Aussi, il y a un cratère où se trouve de la glace d'eau, qui est aussi une ressource.
Exactement. Donc, pour aller sur la Lune, l'eau, c'est une ressource vraiment incontournable qu'on peut utiliser pour faire fonctionner nos bases. Donc, je vous ai déjà parlé un petit peu de la lumière du soleil. On parle de l'eau cachée aussi, cette eau qui se trouve au fond des cratères où la lumière du soleil ne touche pas. Et la troisième ressource, en fait, c'est de la régolithe. C'est cette poussière grise qu'on voit tout autour de nous qui peut servir à plein de choses. D'abord, le régolithe est composé à presque 45% de l'oxygène. C'est des oxydes de métal.
Et donc, on peut extraire de l'oxygène pour...
On peut en extraire pour l'équipage, pour faire des ergols pour nos vaisseaux aussi. Et le régolithe en soi aussi sert de matière de construction. Donc ici, on en a deux exemples. Ici, vous avez devant vous une maquette. Donc, il y a deux parties principales. Il y a un coque externe très, très dur qui est fait justement d'un mélange de régolithe lunaire et d'autres produits pour faire justement un bouclier qui protège un habitat à l'intérieur semi-rigide ou gonflable, en fait, où vivent les astronautes. Et il a été monté qu'avec un épaisseur d'entre 2-3 mètres de régolithe au-dessus de notre habitat, en fait, on est complètement protégé des rayonnements cosmiques.
Alors derrière nous, il y a un autre prototype.
Oui, ça c'est... Le principe est vraiment exactement le même. C'est une structure.
C'est d'apparence complètement différente.
Le fond n'est pas le même. Si l'autre est assez, c'est plus un dôme, en fait, celui-là, c'est plus un tour, en fait. C'est plus haut.
Avec plusieurs étages.
Avec plusieurs étages. Donc, sachant qu'on est sous la Lune, donc en fait, on n'a pas de problème de prendre de faire des marches parce que vraiment, on est tout léger. Et ici aussi, on a un intérieur gonflable, semi-rigide et entouré. Et là, c'est une coupe, donc vous voyez qu'en fait, c'est en construction de cette coque protectrice, en fait, qui protège les humains à l'intérieur.
On régolithe toujours.
On régolithe toujours, exactement.
Le régolithe ici, c'est une poussière aussi précieuse que dangereuse. Elle est fine comme une
taille. Voilà, là, on se retrouve à l'intérieur de notre base lunaire, une base qu'on imagine peut exister dans les 40, 50 ans à venir. Et dans cette partie qui est une sorte de salle ronde avec des différentes fenêtres dans lesquelles on trouve des différents éléments essentiels pour maintenir l'équipe en bonne santé. Et notamment, on parle de le système de support de vie. Donc, on commence avec l'équipage. L'équipage produit des déchets. Donc, ils expirent de le dioxyde de carbone. Ils produisent des déchets alimentaires et le besoin propre aussi, voilà. Donc, tous ces déchets dans ce système de support de vie sont donnés à des petits micro-organismes, en fait, qui vont les transformer en d'autres molécules utiles pour les plantes.
De l'engrais.
De l'engrais pour les plantes. On parle des nitrates et du dioxyde de carbone, tous dont les plantes ont besoin pour pousser. Les plantes, en poussant, vont faire de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre le dioxyde de carbone, ils vont produire de l'oxygène, qui peut servir pour l'équipage. L'équipage va pouvoir les manger aussi, parce qu'on peut faire pousser des salades, des piments, des herbes, des tomates, des fraises, plein de choses bonnes à manger. Et ils vont aussi transpirer de l'eau. Donc il faut faire un premier nettoyage de l'eau qu'on récupère, des urines et des restes de l'équipage. Il y a aussi ce qu'on appelle des photobioréacteurs.
Alors oui, alors là, c'est un tube où justement on voit ce bioréacteur en marche.
Exactement, c'est des tubes dans lesquels vivent un petit micro-organisme qui s'appelle de la spiruline. Et la spiruline, en fait, c'est non seulement c'est très très bon à manger avec un bon apport nutritif, mais c'est aussi un petit micro-organisme très résilient au rayonnement, à la radiation, qui est vraiment idéal pour transporter dans l'espace. Et dans ces tubes, en fait, exposés à la lumière, ils font de la photosynthèse et ils produisent de l'oxygène pour l'équipage. On parle aussi de l'importance de l'impression 3D, le rôle de l'impression 3D pour faire les constructions de nos habitats à l'extérieur, mais aussi les pièces détachées, des outils, même de la nourriture, des médicaments. En fait, il y a plein de projets qui visent à utiliser l'impression 3D pour produire des besoins des humains sur la Lune et éventuellement sur Mars.
Après avoir vu tous ces dispositifs et ces systèmes ingénieux, on pourrait se dire que c'est bon, on est prêt pour séjourner sur la Lune. Il suffit d'assembler les technologies.
Yeah, il suffit de perfectionner les technologies. Je sais qu'il y a beaucoup qui disent que la Lune est parfaite parce que ce n'est pas très loin de la Terre. Donc c'est vraiment le bon laboratoire, le tremplin pour le développement de technologies qui va nous permettre d'aller plus loin sur Mars.
Merci Céline Lausanne pour votre reportage. Grégory Navarro, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, donc c'était très clair. En effet, les ressources qu'on trouve déjà sur place, donc la lumière, l'eau et le régolithe, permettent donc d'accompagner, de faire vivre donc nos astronautes. Voilà, l'équipage, lui, il a besoin, dans l'ordre de priorité, de respirer, de boire, de manger et de gérer ces déchets. Alors ça va être en effet les déchets qui sortent des astronautes, hein, on a l'urine et alors les fesses, donc c'est-à-dire les excréments solides ont été évoqués. Et il y a aussi tous les déchets on va dire non organiques, donc tout ce qui a servi à arriver jusque là, ça va être par exemple des réservoirs vides, ça va être des emballages qui sont pour la plupart en plastique. Donc l'idée, c'est de pas jeter en fait tous ces éléments qui sont en fait de la matière qu'on s'est embêté finalement à amener depuis la Terre, mais aussi pouvoir les réutiliser. Donc c'est des choses qui que nous on étudie de notre côté. Alors les bioréacteurs ont été évoqués, par exemple pour donc retraiter l'urine. Alors on a une étude actuellement sur un micro-organisme qui s'appelle le Cupriavidus necator, qui permet de transformer cette urine. Alors l'avantage de cette bactérie, c'est que on va dire, si on l'embête pas trop, qu'on la laisse tranquille, elle va se multiplier, ça va donner de la protéine. Donc ça, c'est intéressant pour se nourrir ou nourrir, je sais pas, par exemple, on pourrait imaginer des insectes pour ensuite les intégrer dans une chaîne pour nourrir encore des poissons, etc. Et puis des astronautes, on pourrait imaginer ça. Et si on stresse un petit peu cette bactérie, on peut obtenir du bioplastique. Donc là, c'est intéressant parce que ce bioplastique, lui, il va pouvoir être réutilisé dans une autre filière, on va dire une autre boucle, pour être recyclé et pourquoi pas servir en effet de fertilisant. Donc là, le travail qu'on mène, c'est vraiment d'identifier finalement toutes ces boucles. Donc c'est la boucle du carbone, la boucle de l'azote, de l'eau, de l'oxygène, etc. Et pouvoir arriver à fermer ces boucles et donc placer nos différentes briques pour arriver à fermer finalement donc ces boucles. C'est un peu imiter ce qui se passe en fait sur Terre.
Pierre-Henriquet, sur ces problématiques de recyclage et de gestion des déchets.
Ces problématiques, c'est vrai qu'elles sont pas neuves non plus. On n'invente pas maintenant pour la conquête lunaire tout à partir de rien. C'est des problématiques qu'on connaît et sur lesquelles on travaille déjà depuis pas mal d'années, depuis des décennies, dans la Station Spatiale Internationale, par exemple, sur l'ISS. Donc, il y a des systèmes, justement, de retraitement de l'eau qui permettent de récupérer, donc, on le disait, l'urine, après avoir été filtrée, mais même la transpiration des astronautes, qui va être recaptée, refiltrée, réinsérée dans le circuit d'eau potable. Et toutes ces technologies-là sont des technologies qui vont, évidemment, être réutilisées sur la Lune, mais qui ont aussi des conséquences sur Terre, puisque ces découvertes, ces machines, eh bien, on va ensuite les utiliser sur Terre, par exemple, pour désaliniser l'eau dans certains endroits un peu éloignés. Donc toutes ces technologies, elles font le va-et-vient entre l'espace et la Terre.
Oui, c'est ça, c'est que toutes ces innovations, on voit qu'elles peuvent aussi bénéficier aux problématiques terrestres. Grégory Navarro, côté nourriture, il y a deux techniques que vous étudiez au sein de SpaceShip. Il y a la culture hydroponique et la culture sous serre en conditions dégradées. Pour la culture hydroponique, ça ressemble, il me semble, en une sorte d'énorme frigo de 2 mètres par 3 mètres de haut. L'idée, c'est de recréer des conditions idéales pour la plante, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Alors pour l'instant, le système que vous décrivez, C'est un prototype terrestre, donc c'est-à-dire on l'a pas spatialisé. C'est pour l'instant, voilà, il marche avec avec les conditions terrestres spatialisées. Ça veut dire qu'on va le mettre, il va respecter les contraintes spatiales de sécurité, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse en fait avec ce premier prototype déjà, c'est en effet de recréer le climat idéal pour la plante et pouvoir la guider, donc en connaissant bien la botanique et les différentes phases de développement de la plante, donc la guider pour qu'elle produise le maximum de nutriments qui nous intéressent. Donc un exemple, le chou par exemple, il est naturellement riche en vitamine C. Grâce en fait à cet équipement qui s'appelle la Biombox, on peut arriver à recréer les bonnes conditions, donc qui vont permettre de produire encore plus de vitamine C que ce que le chou en produirait si il était cultivé donc en plein champ ou sous une serre. Donc ça c'est intéressant parce que il faut imaginer les futurs. Là on est vraiment dans la branche nutrition hein, qui est traitée aussi par le spaceship. Sur ces voyages au long cours vers Mars, donc là on se projette vraiment vers Mars, qui vont durer entre deux ans et demi, 3 ans. On va avoir en fait des variations en fait, au niveau des besoins nutritionnels des astronautes. Et donc ce système-là, il va nous permettre, si on connaît, finalement, si on anticipe ces variations, ces besoins nutritionnels, de mettre en culture au bon moment les différents éléments, et donc des différentes plantes, pardon, qui vont nous servir, et donc de couvrir les besoins nutritionnels. Et tout cela, en fait, en étant le plus sobre possible en termes d'énergie et de ce qu'on va donner à la plante pour qu'elle grandisse de façon correcte et qu'elle nous donne les nutriments dont on a besoin.
Grégory Navarro, vous avez fait pousser du chou, vous avez fait pousser quoi d'autre ?
Alors en fait, avec les donc là on parle de plantes modèles, donc grâce à cet appareil, donc on peut justement mettre en place la bonne recette entre guillemets, donc c'est-à-dire la bonne luminosité, la bonne température, la bonne composition de l'atmosphère à l'intérieur de la boîte, les bons nutriments au pied de donc au niveau des racines, et donc on a cultivé un ensemble de légumes feuilles, donc ça s'appelle donc des légumes maraîchers, donc ça va être de la salade, des choux Mizuna. On a aussi pu faire pousser des tomates et des aubergines, donc ça c'est intéressant. Et là le travail actuel c'est d'utiliser ce même prototype, alors avec quelques petites adaptations, pour pouvoir faire pousser des légumes racines. Donc là c'est s'orienter vers des navets, des carottes, des pommes de terre. Pourquoi pas des légumineuses aussi, parce que là on va aussi chercher de la protéine. Et on a fait des premières expérimentations aussi pour les champignons. Alors les champignons c'est un peu particulier, donc il a fallu adapter un petit peu pour pouvoir faire de l'ensemencement au niveau du mycélium, etc. Mais l'avantage de champignons c'est qu'on vient compléter la gamme nutritionnelle aussi en apportant des protéines, mais des vitamines, donc qu'on trouve pas forcément dans les végétaux.
Mmh. Le gros hic de la culture hydroponique, c'est la panne d'électricité. Pierre-Henriquet, vous souhaitiez réagir?
Justement, en fait, les deux recherches qui sont faites, c'est soit l'hydroponique, donc on amène un substrat de terre, c'est pas de la terre, c'est un sol qu'on va entièrement construire, dans lequel on va faire pousser les plantes. Mais on pourrait aussi légitimement se poser la question, est-ce que des plantes peuvent pousser dans le régolithe lunaire? Personne l'a fait jusqu'à maintenant. Ben en fait, si, on l'a fait il n'y a pas très longtemps. Ça a été fait justement aux États-Unis. Vous savez qu'il y a environ 400 kilos de roches et de poussière lunaire qui ont été ramenées sur Terre. Et donc, une toute petite partie de ce sol lunaire a été utilisée pour planter des plantes et voir si elles poussent. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que les plantes poussent dans le régolithe?
Affolement.
Voilà, c'est ça. Les résultats sont tombés en mai 2022, l'année dernière. Et en gros, ça marche, mais les plantes sont extrêmement stressées. Donc, les racines poussent mal, les plantes poussent mal, les feuilles se développent mal. C'est vraiment le régolithe lunaire est un milieu qui est relativement hostile, en tout cas stressant pour les plantes. Il y avait des mesures qui ont été faites à la fois dans du vrai régolithe et puis dans ce qu'on utilise pour simuler le régolithe. Donc ça poussait beaucoup mieux dans le simulant, mais dans le vrai, alors le pire, c'était le régolithe qui a été amené par la mission Apollo 11. Voilà, ça poussait vraiment mal là-dedans. Apollo 17, c'était un peu mieux et Apollo 12, moyen. Mais globalement, il faudra rajouter quelque chose. C'est pas un sol pur pour faire pousser des plantes.
Grégory Navarro, vous travaillez justement aussi à cette voie-là, hein, celle de l'utilisation d'un sol très pauvre, voire stérile, pour faire pousser des plantes.
Oui, c'est exactement ça. Le régolithe, voilà, de base, c'est stérile. Donc, si on veut pouvoir, alors, de prime abord, l'idée, c'est de l'utiliser pour servir de support aux racines. Et en effet, c'est un milieu hostile, acide. Donc, les plantes aiment pas trop ça. Donc, dans l'idée, c'est de pouvoir, disons, transformer ce sol stérile un sol à minima fertile. Donc c'est le principe de pédogenèse, donc c'est un processus naturel qui existe déjà sur Terre, mais qui est long évidemment. Nous, ce qu'on essaye de voir, c'est qu'est-ce que on peut apporter finalement à ce sol pour l'ensemencer, j'allais dire encore une fois au minimum, donc c'est-à-dire des colonies de bactéries, pourquoi pas du compost qu'on pourrait aussi imaginer produire sur place, pour pouvoir avoir pour pouvoir faire pousser des plantes. Alors pourquoi on fait ça aussi? C'est parce que, vous l'avez évoqué, finalement, notre système Biombox, ben, il fonctionne à l'électricité. Et c'est une horlogerie qui est assez, qui est très précise. Ce qui fait que si on a une panne, on a le risque de perdre nos cultures assez rapidement. Donc, dans le spatial, on aime bien les solutions alternatives. Donc, c'est les solutions backup. Et donc, dans l'idée, c'est justement de pouvoir utiliser la ressource régolithe sur place pour pouvoir faire pousser des plantes. Alors, ça va pas être optimisé comme dans la Biombox, mais en revanche, on va pouvoir avoir des cultures alternatives, donc en cas de panne du premier système.
On arrive à la toute fin de cette discussion. On vient de voir, on a parlé des bâtiments, d'un potager. Pierre-Henriquet, autre besoin qu'on n'a pas abordé ensemble, la communication.
La communication, effectivement, depuis la Lune jusqu'à la Terre, d'une manière générale dans l'espace, on utilise les communications radio. Donc on n'a pas forcément besoin d'un bon émetteur ou d'un émetteur puissant, il suffit qu'on ait des grandes oreilles. Donc c'est ce qu'on a fait pendant l'émission Apollo. On avait un petit émetteur radio sur la Lune, et par contre on avait de gigantesques radiotélescopes qui écoutaient le moindre frémissement qu'on pouvait entendre. Alors ça c'est bien, mais ça permet déjà, ça atteint ses limites, et puis ça permet pas d'atteindre des débits suffisamment importants pour ce qu'on veut aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'actuellement il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur des communications qui ne seraient plus radio, mais qui seraient laser. Alors ça offre plein d'avantages. Le premier, c'est une sécurisation des données, parce que le rayon laser, il est très fin, donc si vous êtes à côté, vous ne le voyez pas. Et surtout, l'autre chose, c'est le débit, qui peut être multiplié par 1000, par 1 million. Donc il y a des tests qui ont été faits en orbite autour de la Terre. Il y a des tests qui seront faits justement pendant la mission Artemis 2 sur le vaisseau Orion, donc un test de communication laser. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir probablement, lorsqu'on aura notre atterrissage sur la Lune, eh bien de voir en haute définition tout ce qui se passe, contrairement aux images un petit peu difficiles qu'on a des années 70.
On a hâte, on est arrivé à la toute fin de cette discussion, comme chaque jour, on retrouve la chronique avec science avec Alexandra Delbo dans quelques secondes, mais un petit mot pour inviter nos auditeurs à vous suivre, Pierre-Henriquet sur X, pour votre formidable travail de vulgarisation et de veille scientifique, c'est sur votre compte Astropierre.
Merci.
Merci à vous deux. Il est temps de retrouver la chronique avec science. Alexandra Delbo nous parle d'allergies respiratoires.
Quelle est la cascade moléculaire à l'origine de l'allergie? Votre nez est pris, vos sinus également et vos yeux coulent. C'est le désagréable retour du printemps. Les responsables de cette production excessive de mucus sont les allergènes, en premier lieu les pollens, mais aussi les spores des champignons, c'est-à-dire les moisissures. Au mieux, cela provoque une rhinite, au pire un asthme. On estime au bas mot que près d'un quart de la population française souffre d'une maladie allergique. Parmi les principaux médicaments pour lutter contre ces effets, on trouve les antihistaminiques, les corticoïdes et les bronchodilatateurs, mais tous agissent en aval de la réaction inflammatoire. L'enjeu, c'est de trouver ce qui se cache en haut de tout cela. Et il y a une famille de molécules que l'on commence à découvrir, ce sont les alarmines. Jean-Philippe Girard est directeur de recherche INSERM à l'IPBS, l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale à Toulouse, et dernier auteur de cette étude parue dans le Journal of Experimental Medicine.
On a découvert la première alarmine à Toulouse, à l'IPBS, il y a maintenant 20 ans exactement, qui s'appelle l'interleukine 33, IL-33. Entre-temps, les Américains ont trouvé une alarmine aussi des poumons, qui s'appelle le TSLP. Mais voilà, il y avait deux alarmines connues. Alors qu'est-ce que c'est ces alarmines? Les cellules du poumon vont être endommagées, elles vont libérer des signaux d'alarme qu'on appelle les alarmines. Et donc dès que ces alarmines sont libérées par les cellules épithéliales du poumon, suite à l'exposition à l'allergène, au pollen, à la moisissure, dans les minutes qui suivent, ces alarmines sont libérées, et dans les heures qui suivent, ces globules blancs qui résident dans les poumons, qui sont là pour surveiller en fait, sont activés. et se mettent à produire tout un tas de médiateurs de l'inflammation allergique. Donc, il y en a plusieurs. C'est toujours des interleukines, des petites cytokines, des petites protéines. L'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est le démarrage, en fait. Parce que si on soigne les maladies, on agit trop tard en bas de la cascade. Il y a trop d'acteurs et le traitement n'est pas assez efficace. Donc, plus on agit en amont, plus on va bloquer toute la cascade inflammatoire. On va réduire l'inflammation des poumons. C'est ça qui est à l'origine des exacerbations chez les patients.
Les alarmines sont tout au sommet de la pyramide. L'enjeu, c'est donc de comprendre comment elles fonctionnent, qui elles permettent de recruter, comment sont-elles libérées et si leur famille est plus étendue que ses deux membres. Et parce qu'il y a des milliers d'acteurs dans la réaction inflammatoire, il faut combiner non pas des milliers, mais plusieurs techniques. Autant en immunologie qu'en biologie cellulaire et moléculaire. D'abord, de la spectrométrie de masse pour couper en tout petits morceaux les protéines et en identifier de nouvelles. Ensuite, stimuler les globules blancs avec des alarmines pour voir leur réaction. Il y a aussi de la microscopie pour étudier la libération des alarmines par les cellules pulmonaires. Et pour finir, des manipulations in vivo chez l'animal, notamment la souris, avec des inhalations d'allergènes pour analyser les réactions physiques à l'allergie. C'est donc la conjonction de toutes ces expériences qui a permis de mettre en évidence une nouvelle alarmine au sommet de la cascade de signalisation, c'est TL1A.
C'est une protéine qui était déjà connue pour être impliquée dans l'inflammation, mais dans l'intestin, qui joue des rôles importants au niveau de la maladie de Crohn. Donc au niveau des poumons, en fait, on s'est aperçu que cette protéine TL1A était une nouvelle alarmine, en fait. C'est-à-dire elle était produite comme l'IL-33, une vraie sœur ou frère d'IL-33, produite par les cellules du poumon, par les cellules épithéliales, par les muqueuses, libérée en même temps que l'IL-33 suite à l'exposition à l'allergène de type moisissure, et qui va aussi collaborer en fait avec l'IL-33 pour activer les globules blancs. Donc en fait, tout en amont de la cascade, on a découvert qu'il y avait une nouvelle alarmine, le TL1A, qui coopère avec IL-33. Après, il faut savoir que les alarmines, il n'y en a pas 50, il n'y en a que 3. Voilà, il y a la première IL-33 qu'on a identifiée ici à Toulouse, la troisième qu'on vient de découvrir dans notre nouvelle étude, et la deuxième, c'est les Américains qui ont identifié le TSLP. Donc, on est sur 3 acteurs majeurs, tout en haut de la cascade, en fait, qui vont déclencher l'inflammation des poumons, la réaction allergique. En fait, ces alarmines, comme elles sont produites par les cellules du poumon, on pense qu'elles jouent aussi un rôle clé dans l'inflammation du poumon en général, pas que pendant l'allergie.
Ces alarmines joueraient donc un rôle plus large dans d'autres mécanismes inflammatoires, comme dans les infections virales, grippe, rhinovirus, ou dans la BPCO, la bronchopneumopathie obstructive, maladie très grave, puisque c'est la 3e cause de décès dans le monde. Raison pour laquelle il y a actuellement 6 essais cliniques qui visent IL-33, la première alarmine, près de 20 ans après sa découverte. Mais pour ce 3e et nouveau membre, TL1A, les applications médicales vont probablement arriver beaucoup plus rapidement, puisqu'on dispose déjà d'anticorps monoclonaux en essai clinique de phase 3 pour la maladie de Crohn. La suite, c'est donc de transposer ce candidat médicament des intestins aux poumons pour soigner l'asthme sévère et la BPCO avec de nouveaux essais cliniques espérés d'ici moins de 5 ans.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Alexandre Morales, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Ruben Carmézine. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.